Cap Cap, aujourd'hui thématique, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, de l'association Action Femmes Grand Sud et sa présidente Françoise Baraquin. Bonjour Françoise Baraquin.
Bonjour monsieur.
En studio également avec nous, deux étudiants journalistes de l'ISJT, l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse, Léna Borans et Mathis Desbril. Alors, Laurence Baraquin, vous êtes la présidente de cette action Femmes Grand Sud. Qui c'est qui a eu cette idée et quand? Avant que vous nous disiez ce que vous faites dans cette maison.
Alors, cette idée est née il y a un peu plus de 12 ans. On a commencé il y a un peu plus de 14 ans sous une autre enseigne. Et puis on a vite eu envie de voler de nos propres ailes, donc on a créé une association qui s'appelait Action Femmes 31 pour dire qu'on était bien ancré localement. L'idée est née de là, pour des femmes de plus de 45 ans, inscrites à Pôle emploi ou maintenant à France Travail depuis moins de 2 ans.
Alors, bonne question, évidemment, on le disait hors micro, qui s'impose d'entrée. Pourquoi uniquement les femmes? Parce que là, j'imagine que vous traitez des gens qui sont au chômage, qui sont à recherche d'emploi, mais j'ai remarqué que les hommes cherchaient aussi d'emploi.
Oui,
c'est une association sexiste?
Pas du tout. Pas du tout. C'est une association qui a des bénévoles hommes. Donc ça, c'est mixte du côté...
Et qui travaille pour des femmes.
Et qui travaille pour des femmes et qui aime bien travailler pour des femmes. Je crois qu'un public mixte, dans un public mixte, les femmes ne vont pas se livrer de la même façon qu'en étant simplement entre femmes. Je crois qu'on peut mettre un certain nombre de choses sur la table quand on est entre nous. Est-ce qu'on ne va pas dire les mêmes choses quand il y a un élément masculin là?
Vous êtes sûr de ça?
Absolument.
Absolument. C'est l'expérience
C'est l'expérience qui me fait dire ça. Et puis, c'est le fait de les interroger aussi. Alors, je vais aller un peu dans votre sens. Il y a une fois une femme qui m'a dit « Mais quand je suis venue, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais faire avec ce groupe de bonnes femmes hein, c'est pas possible. » Et quand on en est sorti, elle a dit « Ouais, c'était chouette, c'était bien. Oui, on est bien entre femmes on s'épaule la sororité, ça existe. »
Certes, mais vous avez des bénévoles hommes aussi.
Ouais, oui. Oui, mais les bénévoles hommes, ils n'ont rien à mettre sur la table, sauf leur expérience.
C'est déjà bien, non?
Bah oui, mais oui.
Qu'est-ce que mettent les femmes sur la table, justement?
Bah, tous leurs états d'âme, tout ce qui les dérange, tous leurs projets, des choses qu'elles ne mettraient pas.
Mais qu'est-ce qu'apportent des bénévoles femmes par rapport à des bénévoles hommes pour trouver du travail?
C'est pareil, c'est la même chose.
Donc pourquoi?
Les bénévoles apportent leur expertise, leurs compétences et leur envie de faire du bénévolat.
Vous en avez beaucoup de bénévoles?
66.
66, donc il y a la parité homme-femme ou il y a plus de femmes que d'hommes?
Il y a plus de femmes que d'hommes.
Et vous les recrutez comment, ces bénévoles?
On les recrute essentiellement par le bouche-à-oreille.
C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'ils aient une bonne volonté, ça c'est évident, du temps à vous consacrer, mais aussi quelques compétences, j'imagine.
Ah bah, ça c'est évident, ce sont des gens qui ont des compétences et une appétence pour ce qu'on fait. Donc qui ont envie aussi de donner un plus de sens à leur vie, on va dire.
Alors comment ça marche, le cœur du réacteur, comment ça fonctionne? Je suis une femme de plus de 45 ans, ou de 45 ans. Ouais. Donc si j'ai moins de 45 ans, il faut que j'attende d'arriver à la date fatidique.
Absolument.
Pourquoi 40? Vous avez choisi 45 plutôt que 40 ou 50?
Parce que 45 ans, pour l'Europe, en termes européens, on est senior à 45 ans. Donc il fallait bien trouver un chiffre. Et puis c'est un chiffre rond.
Oui,
bon, voilà, c'est
un peu arbitraire quand même.
Complètement.
Je suis une femme de 43 ans et vous allez me dire non, revenez dans 2 ans.
Absolument.
C'est dur ça, non?
si vous avez 44 ans et demi, on vous prend. Mais le problème ne s'oppose pas si souvent que ça.
Alors, comment vous recrutez vos clientes, entre guillemets, ben on ne va pas les appeler comme ça, mais un peu, oui. C'est peut-être des adhérentes, tout simplement.
On les appelle des candidates. Mais d'accord. Bon, c'est notre vocabulaire interne.
Donc, elles sont dans quelle situation, ces bonnes dames ?
Alors, elles sont soit au chômage, elles viennent d'être licenciées, soit en burn-out, soit elles viennent d'arriver à Toulouse aussi. Soit elles ont arrêté de travailler pendant un certain temps et elles veulent reprendre un emploi parce que quand les enfants grandissent, un seul salaire, ça suffit pas forcément. Il y a aussi le fait que...
Encore faut-il qu'elle ait déjà ?
Oui, bien sûr, bien sûr. On a aussi pas mal de femmes de familles monoparentales.
Voilà, c'est un âge où on remarque quand même qu'il y a un certain nombre de femmes qui sont laissées par le mari ou qui ont laissé le mari, je ne sais pas dans quel sens ça va, dans les deux.
J'y venais.
Voilà. Ouais. Et qui vont se retrouver avec les enfants sur les bras, qui les ont élevés, j'imagine, qui ont perdu contact avec le monde du travail et qui sont totalement perdus, esselés, et qui ne savent pas comment s'y prendre.
Tout à fait. Et dans ces cas-là, elles viennent nous voir.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour elles ? On reviendra après sur les profils des candidates, mais qu'est-ce que vous allez faire pour elles ?
Alors, on va d'abord les inviter à une réunion d'information collective pour leur expliquer ce qu'on peut faire pour elles et ce qu'on ne peut pas faire.
Un peu comme les alcooliques anonymes, c'est ça ?
Non, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne comparaison.
Que la comparaison soit pertinente.
Non, c'est est-ce que je mets les pieds dans cette association ou pas ? Si oui, je sais ce qui m'attend. Sinon, je dis non. Et j'ai le courage de dire non, c'est pas fait pour moi, je le sens pas. Donc, c'est cette première réunion d'information collective et suivi d'un suivi individuel avec un bénévole en face à face. Donc, qui va recevoir la candidate autant que de besoin. Et ça, j'y reviendrai. Et ensuite, on leur propose des ateliers thématiques. Alors pour Toulouse, c'est tous les mardis et tous les jeudis parce qu'on est hébergé par la mairie de Toulouse et on a des locaux à notre disposition le mardi et le jeudi.
D'accord, vous êtes en locaux partagés, c'est ça ?
Oui, vous savez tout.
Oui, j'ai connu ça à une certaine époque. Quelle est la philosophie de l'association ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous l'avez créée ?
Que tout est possible. Que tout est possible, qu'il suffit d'avoir des lunettes roses, et que si on veut, on peut. Quel que soit le domaine et quel que soit l'âge.
C'est très volontariste, ça.
Oui.
Est-ce que vous arrivez à transformer sur le terrain ce genre de formule ?
On a 80% de résultats, donc on doit quand même pas mal y arriver.
C'est fabuleux. Hein ? 80% de résultats, c'est un beau chiffre. Et alors, ces candidates qui vont venir, vous allez les accompagner pendant combien de temps ?
Alors, en moyenne, d'après nos chiffres, c'est 6 mois et 6,1 mois. Elles restent chez nous. Donc, celles qui sont créatrices d'entreprise vont rester un peu plus longtemps, parce que ça prend plus de temps. Celles qui sont en recherche d'emploi, c'est 5-6 mois.
Vous avez des moyens financiers importants ? C'est toujours la question qui tue. Hein. J'imagine que vous vivez de subventions et peut-être de quelques adhésions.
Alors, notre accompagnement est complètement gratuit. Par contre, on fait appel à des dons. Donc, il y a de généreux donateurs qui sont soit des individuels, soit des entreprises. Et on va frapper à la porte des entreprises pour leur demander d'être nos partenaires et de nous soutenir financièrement. Là, pour l'instant, il n'y en a pas encore beaucoup.
Est-ce que les entreprises qui vous soutiennent... sont un réservoir d'emploi éventuellement ? Est-ce que,
absolument,
oui. Je crois qu'on peut en citer au moins une. Il y en a une qui est très importante pour vous.
Alors, il y a Promologie, qui est ancienne, et qui nous a embauché un certain nombre de candidates. Et puis, il y en a une toute récente qui s'appelle Tunzini.
Ça me dit quelque chose, ce nom ? Est-ce qu'ils font ? Vous ne la connaissez pas encore suffisamment pour nous dire tout ce qu'ils font. Mais bon, deux entreprises majeures qui sont auprès de vous, vous servez un peu de cabinet de recrutement, c'est ça ?
Oh non, il ne faut pas exagérer. Non. On ne sert pas, on leur... C'est une opportunité pour des entreprises de savoir que chez nous, on a un certain nombre de profils et de candidates qui sont prêtes à aller sur le marché du travail. Mais alors,
ces entreprises vous aident, mais est-ce que vous avez aussi des subventions publiques ?
Oui, on a des subventions de la... D'abord, on est hébergé, je vous disais, par la mairie de Toulouse. Ça, c'est pour Toulouse, hein. Moyennant un loyer dérisoire. 90 euros par an. Quand je dis dérisoire, c'est vraiment dérisoire. On a des subventions de la mairie de Toulouse, de la métropole. Ceci dit, ce n'est pas des subventions, et vous le savez, qui tombent comme ça tout le temps, hein. Il faut à chaque fois remonter, tous les ans, on remonte un dossier. On a des subventions du conseil régional.
Il faut bien justifier le travail de tous ces gens qui sont dans les bureaux. Il faut qu'ils travaillent un peu. Alors, conseil régional, conseil départemental aussi ?
Non, conseil départemental, non.
Pourquoi ?
Mais je ne sais pas, parce qu'on pourrait leur demander, mais à chaque fois, ça n'a pas fonctionné.
C'est un conseil départemental de tonalité de gauche, je crois, non ?
Oui.
Donc vous êtes plutôt soutenu par la droite que par la gauche, c'est ça ? Ou est-ce que l'option politique n'existe pas ?
L'option politique n'existe pas. Quand il y avait les réserves parlementaires, on est allé frapper à la porte de tous les députés et sénateurs toulousains. Et on a eu des sous de tous les bords.
Ah bah, je pense que là, c'est quand même une croisade, hein, l'emploi qui n'a pas de parti politique, théoriquement. Vous avez un gros budget ?
Oui. 140 000 euros.
Oui, c'est bien quand même. Ah, y a peut-être quelque chose à préciser pour ceux qui auront envie de donner, entreprise ou particulier, c'est que vous devez défiscaliser, j'imagine.
Bien sûr, donc on est reconnu d'intérêt général, donc c'est défiscalisé aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises.
Autrement dit, quand vous donnez 100 euros, bah, ça vous en coûte 33 au final, puisque tout le reste va venir en déduction sur votre déclaration 2042 que vous devriez être en train de faire, puisqu'on est au mois de mai, c'est ça ?
Oui, merci de nous donner, de nous vendre ce genre de choses.
Et oui, je vous le rappelle, on ne sait jamais.
Continuez.
Les bénévoles que vous avez viennent de quels horizons ?
Et ils sont en général tous dans les ressources humaines.
Oui, c'est incontournable ou on peut venir d'ailleurs et avoir...
On peut venir d'ailleurs, on en a certains qui viennent d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il faut avoir travaillé avec des hommes et avec des femmes, être concerné par le marché du travail.
C'est votre cas ?
Oui.
Vous étiez dans l'ARH, comme on dit ?
Oui. Quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai créé mon entreprise qui s'occupait de bilan de compétences, d'outplacement, de coaching et d'emploi des conjoints en mobilité.
Donc vous continuez à faire la même activité, mais ça ne vous rapporte plus rien, c'est ça ?
Absolument. Ça ne me rapporte plus rien en termes d'argent.
Oui, mais après, en termes effectivement humains, richesse, partage...
C'est énorme, c'est énorme.
Et ces bénévoles, ils ont quel âge ? Ce sont des gens qui sont à la retraite, peut-être comme vous, je ne sais pas, ou qui sont encore dans le...
Il y en a très peu, et à chaque fois je me dis, il faut que je compte, mais il n'y a pas un tiers de retraités.
Donc ce sont des gens qui sont en activité. Ah bon, les retraités, c'est bien.
Non, mais bien sûr, il en faut.
Il y en a beaucoup, il y a quelques-uns dans ce studio. Mais bon, voilà, qui essayent aussi de travailler, d'apporter quelque chose aux autres, et pas uniquement de s'occuper, parce qu'on ne s'ennuie pas vraiment. Mais c'est vrai que sans les retraités, on aurait peut-être du mal à faire fonctionner toutes ces associations.
Bien sûr. Mais on a aussi une salariée. Hein.
Oui, vous avez.
J'ai oublié de.
Vous arrivez quand même à salarier.
Oui, on arrive. Mais je déplore que dans aucun dossier, on ne veuille financer un emploi. Nous, on a pérennisé un emploi. Mmh. Ça fait 8 ans qu'on paye quelqu'un. Et personne ne veut financer. Il faut monter un dossier où il y a une partie de son salaire dedans. Bon, mais jamais on peut avoir de subsides pour ça, uniquement.
Mmh. Et oui, ça, c'est des particularités, comme ça on se pose beaucoup de questions. Mmh. Vous avez aussi une autre particularité, c'est que vous travaillez au niveau de toute la région Occitanie.
Oui.
On a parlé de Toulouse, et vous êtes hébergé par la mairie de Toulouse, rappelons-le. Mais également... Albi
et Montpellier.
Et comment ça se passe là-bas ? Vous avez à peu près la même hébergée par les mairies aussi ?
Ah non, pas du tout. Non, les hébergements sont différents. À Montpellier, on est hébergé par le Crédit Agricole.
Oui.
Et à Albi, par une bénévole qui a un tiers-lieu.
Oui, donc il y a quand même des gens aussi. Le Crédit Agricole joue son rôle social, là ?
Oui. moyennant un loyer quand même.
Ah oui, donc c'est, moi je pensais que c'était une action.
Non.
Vous louez des locaux.
On loue des locaux aussi bien à Montpellier.
Mais ça aurait pu être n'importe qui.
Oui.
D'accord, donc il n'y a pas une action particulière du Crédit Agricole.
Elle nous fait payer des charges, simplement.
Oui. Bon, c'est quand même sympathique. Hein.
Oui.
Alors, au niveau de l'association, vous vous réunissez souvent entre vous, vous échangez, vous avez une politique particulière, vous avez des méthodes de travail, ou alors chaque bénévole, puisque vous nous avez dit que chaque candidat est flanqué d'un bénévole ou d'une bénévole, si je puis dire, hein, flanqué. Ouais. Chacun fait un peu comme il veut, comme il le sent, comme il le peut. Ou alors vous avez mis au point des méthodes originales.
On n'a pas une méthodologie particulière. Effectivement, chaque bénévole suit avec nos valeurs, hein, avec ce que je vous disais tout à l'heure, le tout est possible. Hein, et on ne fait jamais à la place des femmes.
Non, mais
femmes
tout est possible, ce n'est pas une valeur, c'est un peu incantatoire. Tout est possible, on va y aller, on forme une équipe. Yucaldi, Yucada, mais derrière,
non,
il faut
non,
quand
non,
même...
Non, ce n'est pas dans ce sens-là que je dis que tout est possible. C'est que si je veux trouver un emploi à Radio Esprit Occitanie, je peux, d'accord?
Je peux
essayer.
Oui,
Je peux essayer. Et puis, si ce n'est pas Radio Esprit Occitanie, est-ce qu'il n'y a pas une radio concurrente qui... Je vais explorer. Ce n'est pas tout de suite dire « ce n'est pas possible ». Ah ben non, il n'y a pas d'emploi. Dans ces cas-là, on ne bouge pas. D'accord ? Alors que si on part du principe que c'est possible, moi je dis toujours, dans toutes les entreprises, il y a forcément des gens qui déménagent, il y a des femmes qui accouchent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont malades, donc il y a toujours des postes qui se libèrent. Il n'y a jamais une entreprise où on ne peut pas rentrer. Il suffit d'y croire, et si vous y croyez, vous pouvez faire ce qu'il faut.
Ça veut dire que vous avez tout un réseau ? Vous étiez une professionnelle, on a compris que d'autres bénévoles l'étaient aussi, ou le sont encore.
Oui.
Est-ce que ce réseau est fondamental ? Est-ce que sans ce réseau, vous n'obtiendriez pas ce discours ?
Alors, je ne sais pas, puisque j'ai le réseau.
Oui, donc ça marche.
Eh bien oui, ça marche.
S'il n'y avait pas ça ?
S'il n'y avait pas ça, de toute façon, on ne fait jamais à leur place. Donc, on leur dit comment faire avec un réseau. Bien sûr, on leur ouvre notre réseau, c'est évident. On a des partenariats aussi avec par exemple, avec un cabinet de recrutement qui va aider nos candidates, les recevoir pour leur faire des simulations d'entretien et leur dire ce qu'ils pensent de leur profil et de la façon dont elles présentent leur profil.
Ils interviennent gratuitement ?
Oui.
Oui, donc
oui, on paye personne. Hein. On n'a pas de sous.
On n'a pas de sous, oui, donc c'est la meilleure façon, effectivement, de ne pas en dépenser. Françoise Bach, on fait une pause musicale. C'est vous qui l'avez choisie, celle-là.
Oui.
Quelle est-elle ?
Zao de Sagazan, la symphonie des éclairs. Des éclairs.
Voilà. Et pourquoi ce choix ?
Parce que c'est positif. Il fait toujours beau quelque part.
Fabuleux, je sens que voilà, Esprit Occitanie, grâce à vous, va devenir extrêmement positif. On écoute Zao.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Voilà, après Zao de Sagazan, bien nous retrouvons Françoise Baraquin, la présidente de l'association Action Femmes Grand Sud, qui nous explique comment ça marche dans sa maison qui est dédiée aux femmes de 45 ans inscrites. Alors en Pôle emploi, non, on ne dit plus Pôle emploi maintenant.
On dit France Travail.
Voilà, dans deux ans, on dira un autre nom, mais oui. C'est toujours pareil. Et vous nous direz tout à l'heure d'ailleurs pourquoi, vous pouvez nous le dire tout de suite d'ailleurs, pourquoi on viendrait chez vous alors qu'on est tellement bien à France Travail, qui s'occupe tellement bien de vous. Comment ça se fait que vous soyez finalement, vous faites leur job un peu, non?
Non, ça n'a rien à voir. France Travail gère des dossiers. France Travail, chaque consultant ou chaque personne de France Travail a des centaines de dossiers à gérer. Nous, quand un bénévole a plus de 3 candidates, il se dit déjà débordé. Donc ça n'a rien à voir. Et nous, donc, c'est complètement personnalisé. Et alors quelque
donc,
chose.
Donc comme chez vous, ça marche. Et que vous avez 80% de succès et qu'eux doivent avoir 10% de succès, ça veut dire que votre organisation est plus performante que France Travail.
Mais c'est pas la même chose. Nous, on n'a pas d'administratif à faire derrière on s'occupe. Les candidates, autant de rendez-vous que de besoins. Hein. Moi, j'ai vécu toute ma vie avec le chiffre, la marge. D'accord ? Là, je n'ai plus de chiffre, donc j'ai plus de marge. Donc, je me fiche du temps.
Donc, vous dormez bien, il n'y a pas de pression. Et quant au mois de mai, il y a la moitié du mois qui passe en week-end. Vous ne vous inquiétez pas pour votre production.
Absolument. C'est bien résumé.
Oui, pour l'avoir vécu, je ressens exactement la même chose. Alors, nous avons nos jeunes journalistes là autour de nous. On va parler un peu aujourd'hui de l'état des candidats, de leur provenance et de l'état justement. Mathis voulait poser une question là-dessus.
Alors j'avais une question, et pour contextualiser un peu cette question, moi j'ai ma mère qui à 45 ans a fait une reconversion professionnelle, donc un parcours un peu similaire à ce que vous pouvez rencontrer tous les jours. Et ce qui a été le plus difficile dans sa reconversion, ça a été l'aspect mental. Et est-ce que cet aspect-là, il est pris en compte par votre association?
Alors, qu'est-ce que vous mettez sous aspect mental?
Mais c'est le fait de se retrouver à un certain âge dans un monde du travail qu'on n'a pas ou peu connu les années d'avant. Il y a un cap psychologique qui peut être difficile parfois à passer.
Autrement dit, dans quel état elles arrivent?
Parce dans quel état elles arrivent?
Arriver à 45 ans, chercher du travail à 45 ans quand on est une femme, soit elles en avaient, elles viennent de vivre un licenciement. Et il doit y en avoir.
Ouais,
soit elles sont déconnectées du marché du travail pour plein de raisons, essentiellement familiales. Hein. Elles ont élevé des enfants. Elles peuvent être divorcées ou pas. Enfin, quel est le profil type de vos patientes, si je puis dire?
Alors, elles ont entre 45 et 63 ans. Hein. C'est pas que des femmes de 45 ans. Quand même, le spectre est beaucoup plus large. quand elles arrivent chez nous, elles sont
nous
complètement...
Nous n'allons pas traiter les plus anciennes de spectre, quand même. Hein,
quand elles arrivent chez nous, elles manquent de confiance. Elles manquent de confiance en elles. Pourquoi ? Parce qu'elles ont entendu partout « Ah, mais t'es trop vieille, mais à ton âge, tu vas pas trouver, mais t'as pas les bons diplômes, mais ça fait tant d'années que t'as pas travaillé, mais ça recrute pas, mais voilà. » Donc, et elles absorbent tout ça. Donc, elles le croient. « Je suis trop vieille, je suis trop vieille, je suis trop vieille. » Notre boulot à nous, c'est de leur faire prendre conscience qu'elles sont pas trop vieilles. D'abord, qu'on a suffisamment d'antériorité pour qu'elles voient que les femmes qui sont passées par chez nous, bah, elles ont réussi. Il n'y a pas de raison, et on n'est pas maso à s'occuper des gens pour avoir zéro résultat au bout. Donc oui, et puis elles ont beaucoup, j'ai pas parlé d'un atelier qui s'appelle l'atelier de dynamisation, qui est la seule chose obligatoire chez nous, tous les 15 jours, où elles échangent entre elles, elles préparent leur pitch, et elles voient comment sont les autres, et elles sont toujours en train de dire « Ah oui, mais elle est très bien, et puis moi, mais moi aussi je suis bien ». Et finalement, quand elles ont confiance en elles, elles peuvent avancer. Et c'est là où elles ont des résultats.
Alors, est-ce que c'est le cas, Mathis, de votre mère ? Est-ce qu'elle a vécu ça comme ça, cette approche du marché du travail comme cela ?
Elle a totalement vécu ça comme ça, puisque en fait, elle a dû refaire une formation d'aide-soignante, donc se retrouver en cours donc avec des personnes plus jeunes. Et il y a ce choc de se dire, ah, mais qu'est-ce que je fais là, à cet âge-là ? Et une fois en fait, ce palier passé, c'est vrai, comme vous disiez, que quand il y a la confiance... Il y a tout le reste qui suit, en fait.
Oui. Ouais. Alors, votre exemple est le bon, parce que nous, on a une pâtissière qui s'est reconvertie et qui a fait un CAP de pâtissière en même temps que son fils. Et là, maintenant, elle vend ses pâtisseries sur les marchés parce que c'est ce qu'elle voulait.
Vous avez dit qu'elles ont entre 45 et 63 ans. Quelles sont les proportions ? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes d'un âge avancé, on va dire, sans que ce soit péjoratif ?
La moyenne d'âge est de 51 ans et quelques. Mais on en a de 63 ans, et c'est pas parce qu'on a 63 ans qu'on trouve pas un CDI.
Et vous arrivez à leur trouver des CDI
non.
à 63
non, non.
ans
Non, non, on n'arrive pas à leur trouver un CDI. C'est elles qui trouvent.
Ah, ça veut dire que, quoi, vous leur donnez les méthodes, les armes, la formation, vous les regonflez psychologiquement et moralement, et c'est elles qui partent au feu ?
Absolument, absolument.
Et vous ne leur trouvez pas des rendez-vous dans des entreprises, vous ouvrez des portes quand même.
Bien sûr qu'on ouvre des portes, bien sûr qu'on ouvre notre réseau, bien sûr qu'il y a des offres d'emploi qui nous arrivent, bien sûr qu'on sait à qui il faut s'adresser. Mais ce n'est pas nous qui leur trouvons. Et jamais on promettra de trouver un emploi.
Oui, ça vous ne pouvez pas le promettre.
Non, mais jamais on ne leur trouvera un emploi. C'est elles qui sont acteurs de leur vie. Et on part de ce principe-là tout le temps.
Alors, une fois que vous les aurez fait suivre les ateliers pendant X semaines, que vous les avez, est-ce que vous les formez techniquement ? Est-ce que quand elles arrivent, elles ont une formation de base ou pas ? Et si oui, est-ce que vous les remettez, par exemple, au goût du jour ? Si elles ont quitté leur formation initiale depuis 10, 15 ans, 20 ans, j'imagine qu'elles sont dépassées. Est-ce que vous allez jusqu'à les remettre à jour, si je puis dire ?
Alors, à Toulouse, on a des profils qui sont minimum Bac plus 2 jusqu'à Bac plus 7, etc. Ailleurs, c'est un peu différent. Elles vivent à Montpellier. Mais si elles ont besoin de formation, elles vont suivre des formations. Nous, les seules formations qu'on fait, c'est des formations à Excel, Word, PowerPoint, etc. pour le moment.
Vous avez dit que ce n'est pas la même situation à Albi et Montpellier. Ça veut dire qu'au niveau de l'Occitanie, en fonction de votre lieu de résidence, les problématiques sont différentes ?
Oui, parce que le marché de l'emploi est différent. Le marché de l'emploi à Albi est différent du marché de l'emploi toulousain. Tout comme le marché de l'emploi montpelliérain est différent du marché de l'emploi toulousain.
Ça veut dire que différent quoi ? Le dynamisme économique est plus important ici à Toulouse ?
Bien sûr.
Oui.
Ouais. Bah c'est juste une capitale avec d'autres plus petites villes.
Alors sur Albi, qui est une petite ville, pas très loin de Toulouse quand même, comment vous arrivez à les sortir de leur marasme de chômage ? Vous les ramenez sur Toulouse ?
Bien sûr que non.
Ah.
Bien sûr que non. Non, non, on les suit de la même façon, avec la même méthodologie à Albi. C'est pas parce qu'elles ont des profils différents qu'on n'applique pas les mêmes méthodes et qu'on ne croit pas de la même façon à la possibilité de trouver un emploi.
Donc il n'y a qu'une recette.
Ouais.
Quels sont les principaux obstacles chez ces femmes qui arrivent chez vous? Qu'est-ce qui ont fait que, parce que si elles viennent chez vous, c'est qu'elles n'ont pas été capables seules de... Alors, on ne va pas parler des services de l'État, dont l'inefficacité est bien connue, mais est-ce qu'elles n'ont pas été capables de se caser seules? Donc, si elles viennent chez vous, qu'est-ce que vous décelez d'entrée? Qu'est-ce qui a fait qu'elles n'ont pas pu réussir par elles-mêmes?
Je crois que je vais revenir sur le manque de confiance en soi.
C'est ça, ça vous semble être
Ah oui, c'est évident. C'est primordial partout. Alors, je prends toujours l'exemple du bébé qui marche. Un bébé, tous les bébés marchent, à quelques pourcentages près. Bon, pourquoi? Vous avez déjà entendu une maman ou un papa dire « Ah, mais tu te rends compte? Ça fait 10 fois que tu te casses la figure, là. Tu vas jamais y arriver. T'as vu tes fesses, là? C'est trop lourd. Ça marchera jamais. » On n'a jamais entendu un parent dire quelque chose de négatif à un bébé qui essaye de marcher. Les femmes qui essayent de trouver du boulot, on leur dit toutes oh, « Mais t'es trop vieille, mais tu n'y arriveras pas. » Et puis on finit par le croire.
Est-ce que c'est pas quelque chose de vrai? Certainement regrettable, mais est-ce que l'âge n'est pas un frein? Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se refusent à embaucher. Regardez le chômage des seniors, qui pose un énorme problème.
Oui. Mais de plus en plus, les entreprises ont conscience des atouts d'une femme ou d'un homme de plus de 45 ans.
Et on a deux jeunes journalistes là, qui vont se lancer sur le marché de l'emploi. Ils ont le même problème, ils manquent de
Bien
confiance
sûr.
En eux aujourd'hui. Oui. Ça veut pas, enfin, je l'imagine, hein, je parle pour vous, mais vous me coupez si je dis une bêtise. Mais si vous retrouvez devant un employeur, ça va être un peu compliqué pour trouver le discours, la distance, pour trouver l'assurance, pour le dire « embauchez-moi parce que je vaux le coup, je suis bon et je suis capable mm-hmm. ». Donc, ce n'est pas une question d'âge.
Ce n'est pas une question d'âge. À eux, on va dire « ah, mais vous n'avez pas d'expérience ». D'accord.
Oui.
Bon, à quelqu'un de plus de 45 ans, on va dire « ah, ben vous avez trop d'expérience, ça vous coûtez trop cher ». D'accord. À eux de dire oui, j'ai pas d'expérience, mais je sais, je suis capable d'apprendre. J'ai déjà fait un stage chez Radio Esprit Occitanie. J'ai fait ceci, j'ai fait cela.
Hein. Rien que prononcer le mot d'Esprit Occitanie va leur ouvrir effectivement beaucoup de portes. On est d'accord. Oui, c'est quand même un problème de tous âges, ça.
Bien sûr.
J'imagine qu'il y a des femmes de 45 ans qui se sentent un peu peut-être libérées de l'éducation des enfants, qui sont prêtes à tout casser.
Bien sûr. À partir du moment où elles ont confiance et qu'elles savent que oui, elles vont réussir.
Est-ce que les... On parle beaucoup dans le cinéma, maintenant c'est la tarte à la crème, MeToo, les questions de sexe, etc. Est-ce que ça joue sur le marché de l'emploi? Est-ce que vous avez ce type de frein ou de questionnement ou de problème?
C'est pas des problèmes qu'on rencontre dans notre association, ça.
Non, mais est-ce que dans les candidates que vous recevez, est-ce que certaines se sont heurtées à ce genre de choses ou n'ont pas accepté un certain nombre de propositions qui pourraient leur être faites?
J'ai pas de recul là-dessus et c'est pas et on va pas creuser là-dessus non plus.
Non. C'est pas vos partenaires entreprises. Ils vous aident dans la définition des postes, dans la...
Ils nous proposent des postes. Oui, les partenaires, entreprises ou associations, quand ils ont des postes, et quand ils savent qu'on a des candidates chez nous, oui, bien sûr.
Donc si je comprends bien, vos candidates, vous leur proposez une méthodologie pour se remettre au niveau, une méthodologie, alors pas forcément sur le plan technique, mais sur le plan de la présentation, sur le plan du mental, sur le plan du dynamisme.
Oui.
C'est-à-dire, vous leur dites encore, vous n'êtes pas foutus, quoi, globalement, mais c'est
bien
ça.
Sûr,
hein.
Bien sûr, mais vous croyez qu'on est foutus à 50, 45, 50, 60 ans?
C'est pas bon âge que je vais vous le dire. donc, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, on accompagne des créateurs d'entreprises. Mm-hmm. Donc, j'imagine toujours des femmes de plus de 45 ans.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que vous leur rapportez? Parce que là, il n'est pas question d'aller se vendre, il est question de monter un projet... a priori technique, donc elles ont une connaissance technique, pratique. À côté, il faut monter des structures juridiques, il faut trouver du financement, il faut étudier des marchés. Comment ça se passe? Vous faites ça aussi?
Alors, on ne fait pas tout ce qui est technique. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander de faire un budget provisionnel, on ne va pas les aider à choisir un statut. Il y a des tas d'endroits à Toulouse où on le fait, et où on le fait bien.
Oui, ça s'appelle les experts comptables et les avocats, globalement.
Oui, ou la Chambre de commerce aussi fait des stages de créateurs d'entreprises.
Peut-être on ne va pas s'étendre sur la Chambre de commerce et ses immenses qualités.
Il y a pléthore d'endroits où on peut avoir ce genre d'aide. Nous, on est plus dans la réflexion qualitative. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être chef d'entreprise ? Ça implique quoi d'être chef d'entreprise ? Est-ce que mon entourage est d'accord pour que je sois chef d'entreprise ? Ça veut dire que je sois monopolisé 24 heures sur 24, 365 jours par an.
Oui, ne dramatisons pas, il y a quand même...
C'est pas dramatisé, c'est la réalité.
Oui.
Vous disiez qu'il ne fallait pas se vendre, mais si, il faut aller se vendre au banquier. Déjà, comment je présente un dossier, comment je me présente vis-à-vis d'un banquier, quels sont mes atouts pour pouvoir convaincre de me suivre. Donc on a plein d'accompagnements qui sont pas des accompagnements techniques. On va les suivre dans toutes leurs démarches.
Dans quel secteur elles s'orientent, celles qui veulent se lancer en solitaire, si je puis dire?
Il y a tout. Je vous parlais tout à l'heure de la pâtissière. On a donc des métiers manuels. On a effectivement quelqu'un qui s'est reconverti dans la tapisserie, qui était cadre hospitalier, qui a fait un CAP de tapissier et qui est ravi, ça marche bien. C'est pas du tout le même salaire que quand on est cadre dans une entreprise, mais elle est heureuse et je crois que c'est ça l'important. On a des sophrologues, on a quelqu'un qui fait du conseil en couleur, quelqu'un d'autre qui fait de l'upcycling avec des matériaux.
De l'upcycling,
Oui.
En
occitan, c'est on prend des matériaux anciens, on en fait du nouveau. Exemple, les tapisseries de nos grands-mères, les convertit avec des laines du pays. Elle en fait des jolis coussins avec juste un petit liseré de tapisserie. Donc, ça veut dire recycler.
Comment elles financent cette nouvelle formation ? Parce qu'il faut du temps pour former un professionnel. Comment vous les aidez à financer ce type de reconversion ?
Non, on n'entre pas là-dedans.
Donc, ont un projet.
Elles ont un projet, elles vont voir des banquiers.
La capacité technique, etc. Oui. Et après, vous les supportez plutôt moralement qu'autre chose qui est fondamental.
C'est vraiment un suivi, on les aide.
Comment les services de l'État voient votre action ? Est-ce qu'ils vous considèrent comme une concurrente ? Est-ce qu'ils
Non, pas du tout.
Est-ce qu'ils vous ignorent ? Est-ce que, par exemple, chez Monsieur Pôle Emploi, ou on appelle maintenant France Travail, très mal nommé, est-ce qu'ils vont, par exemple, vous dire à une candidate, bien, allez voir Action Femmes, parce que eux, ils vont vous sortir un job ?
Oui, on travaille beaucoup à Albi et à Montpellier avec France Travail, qui nous permet de faire des réunions d'information sur ce qu'on fait et qui on est.
Donc c'est
l'APEC aussi nous recommande, donc il n'y a pas de concurrence. Et avec l'État, j'aimerais bien qu'ils nous connaissent plus.
Si vous faites leur travail, ça les arrange finalement, non ?
On le fait à une petite échelle et on n'est pas concurrent. On peut aussi bien être suivi par France Travail, par l'APEC que par nous. Et en même temps.
Il y a quand même une collaboration. Quand on regarde d'autres pays comme, par exemple, je crois l'Angleterre, ils ont des systèmes complètement différents qui se rapprochent plutôt de ce que vous faites. Vous n'avez jamais étudié ce marché, oui.
Il y a trop longtemps. Donc, je ne sais pas actuellement.
Oui, c'est pas toujours. C'est parfois l'action privée qui est chargée de ce type de choses et ça réussit finalement très bien.
Oui.
Le marché de l'emploi, comment il est en Occitanie ?
Pour l'instant, les entreprises galèrent pour trouver des profils. Hein.
Oui, parce qu'on semble nous dire qu'il y a certains secteurs, alors pas forcément. Ceux qu'on pourrait recommander à une dame de 45 ans, aller faire du service dans un restaurant, j'imagine que peut-être un peu compliqué et sur le plan physique, il faut pouvoir suivre. Mais il y a d'autres jobs.
Mais vous savez, à 45 ans, on n'est pas si vieux que ça. Hein. On peut très bien être serveuse dans un restaurant.
Est-ce que
ce
sont des gens qui ont... Donc vos candidates sont prêtes à accepter n'importe quel job ?
Non, surtout pas. Alors ça, ça fait partie de notre rôle. Sauf s'il y a le feu et s'il faut avoir un job alimentaire. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais sinon, c'est... Je ne veux pas aller au boulot le lundi matin en me disant vivement vendredi.
C'est pourtant ce que se disent beaucoup de gens.
Ben oui, mais c'est un tort. Je veux dire, ce que l'intérêt, c'est de venir au travail avec le sourire et parce qu'on est content d'y venir. Et c'est ce qui se passe pour nos candidates. J'ai en tête une qui vient récemment de se reconvertir, de se trouver un emploi. Elle a hésité entre un CDI et un CDD. Bon, le CDI, c'est quand même tentant. Sauf que le CDI, ce qu'on lui proposait, c'était pas aussi intéressant que le CDD. Elle s'est pris le CDD en disant, on verra bien, j'en ai pour 6 mois, mais là, au moins, je vais m'éclater. Et c'est ça l'objectif du travail.
Ouais, s'éclater, mais peut-être aussi avoir tout simplement des ressources. Hein, parce que
oui, bien sûr.
Mais c'est certainement c'est la évident. Motivation première, non ?
Oui, si on travaille, c'est pour avoir de l'argent. Ça, c'est clair. Mais pas à n'importe quel prix.
Il y a un monsieur qui s'est fait un nom, là, depuis, qui avait dit qu'il suffisait de traverser la rue pour avoir un job. Vous acquiescez à cette formule ? Il suffit comme ça de traverser la rue ?
Il suffit. D'abord, il ne suffit pas. Il y a un certain nombre de facteurs qui doivent être là. Notamment, je reviens sur la confiance en soi. J'y crois. Donc, c'est possible. Bien sûr que ça va marcher.
C'est pas la méthode Coué, ça ?
Peut-être. Et alors ?
Ça fonctionne.
En quoi c'est gênant ?
Lorsque une de vos candidates arrive dans une entreprise et reçue, elle réussit à décrocher un rendez-vous, ce qui n'est pas simple, est-ce qu'elle va avancer le fait qu'elle a été soutenue par vous, par votre association ? Est-ce que c'est un plus pour un candidat ?
Ça dépend comment elle le présente. Ça dépend si l'entreprise nous connaît. Et c'est pas ce qui est à mettre en avant. On n'est pas un gage de qualité par rapport à une compétence.
Oui, mais quand même, vous leur avez déjà apporté quelque chose.
Oui.
C'est un plus. Elles arrivent, elles ne débarquent pas de nulle part.
Non, elles sont confiantes.
Voilà, elles sont confiantes. Oui. Il y a déjà une formation quelque part, oui, ou une reformation.
Il y a une préparation aux entretiens d'embauche aussi.
Oui, donc ça, c'est important.
Oui. Mais c'est pas un gage de qualité de dire on vient de chez Action Femmes Grand Sud.
Non, ça peut être un argument. Ça veut dire que j'ai fait une démarche extrêmement volontariste, j'ai été encadré par des gens, et donc je suis certainement beaucoup mieux formé qu'une candidate qui arriverait, qui tomberait de la lune comme ça.
Oui, si c'est son argumentaire, pourquoi pas ?
Elles sont libres de leur argumentaire.
Ah bah oui, heureusement.
Alors est-ce que vous n'avez pas l'intention de créer une association sœur, entre guillemets, pour les hommes ?
Non.
Non, vous continuez à rester...
Bah oui, vous savez, 66 bénévoles, 3 bureaux, ça va bien. Hein.
Et si vous travaillez pour les femmes et les hommes, ça changerait quoi ? Est-ce que vous seriez moins performant ? Est-ce que vous ne sauriez pas trouver un job pour des hommes ? Est-ce que leur psychologie n'est pas exactement la même ? Ou leur situation n'a rien à voir avec celle des femmes ?
Alors, d'abord, on ne trouve pas de travail, même pour un
oui,
homme.
Hein ?
Non,
je
mais
vous
c'est,
entends.
C'est important.
Vous les mettez sur la rampe de lancement, on va dire.
Voilà. Pourquoi pas ? On aurait un Action Homme Grand Sud, pourquoi pas ? Mais les deux, je suis sûre que ça ne marche pas, ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas la même problématique. Les situations
ne sont
pas les mêmes.
Les situations sont différentes. Et là, on va vraiment au fond des choses, on met son cœur sur la table. Ce qu'on ne fait pas quand il y a un homme ou plusieurs.
Pourquoi les hommes n'ont pas de cœur ?
Ça, c'est trop facile. Vous en pensez quoi, mademoiselle ?
C'est de la provocation. Léna, comment vous voyez les choses ? Dites-nous, vous ne nous avez rien dit jusque-là.
Mais personnellement, je pense que vous avez raison. Enfin, c'est totalement différent quand on a un homme en face et une femme. Enfin, c'est beaucoup plus... Certaines femmes pourraient se sentir intimidées face à un homme de révéler ce qu'elles ont vécu ou leur passé ou... Voilà ce qu'elles ont vécu.
Voilà,
merci.
Elle est très bien, Léna, vous voyez.
Oui.
On fait une deuxième pause musicale, Françoise Baraquin. Moi, je vais vous
avec
amener... on va écouter La Guêpe, hein, un morceau de La Guêpe. La Guêpe, c'est le CD, je crois, c'est l'album, qui a été écrit par Janko Nilo Vic, c'est très compliqué pour moi à dire. C'est un monsieur qui est né à Istanbul d'une père yougoslave et d'une mère grecque. On l'entend pas très souvent, mais il a fait beaucoup d'arrangements, notamment pour des gens comme Gérard Lenormand, Michel Jonas, hein, puisqu'on parle des femmes d'au moins 45 ans. Elles savent qui sont ces gens, alors que je suis sûr que nos jeunes ne savent pas de qui on parle. Mais il a même composé d'ailleurs pour Michel Jonas, je crois. On écoute Janko Nilo Vic. Voilà, respiration musicale avec Janko Nilo Vic. Et nous retrouvons Françoise Baraquin, l'Action Femmes Grand Sud, donc cette association qui s'est donnée pour but de remettre, de faciliter l'entrée sur le marché du travail de femmes de plus de 45 ans. Alors vous avez, vous faites pas mal d'actions de communication. En fait, j'ai vu des spectacles. Il y en a un dont il faut parler, c'est demain soir, je crois.
Ah oui, il faut se dépêcher là.
Oui, il faut vraiment se dépêcher. Alors demain soir, c'est un concert.
C'est un concert à Altigone qui est fait par l'ensemble Gospel Harmony, qui est un chœur toulousain qui promeut le gospel et l'esprit traditionnel du gospel. Ils vont être demain 17 choristes sur place et 7 musiciens. Et c'est top. Hein, c'est pas la première fois qu'ils interviennent. Et à chaque fois, le public est enthousiaste. Et on a un bénévole qui chante. Donc, c'est grâce à lui qu'on a Gospel Harmony. Et grâce au maire de Saint-Aurens qui nous prête Altigone gratuitement.
Ce qui est un beau geste.
Oui.
Alors, ceux qui ont écouté mes émissions au cours des derniers 15 jours l'ont déjà entendu, puisque je l'ai cité, je crois, assez abondamment, de manière à le rappeler à tout le monde. Alors, comment, Françoise Baraquin, bon, vous êtes la présidente, on sait que ce type de présidence, c'est extrêmement lourd, surtout quand on touche à l'humain, à des situations parfois compliquées. Ça vous prend énormément de votre temps?
Ça me prend un mi-temps.
Oui, ce qui est quand même déjà bien. Hein,
oui.
Et alors, quand vous ne faites pas la présidente, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du sport? J'imagine que la vie associative, déjà celle que vous avez quasiment professionnellement, vous suffit. Vous n'allez pas en chercher d'autres, mais...
Non, ça suffit.
Ça suffit largement.
Ouais.
Alors, à quoi occupez-vous vos temps de loisirs? Puisque j'ai cru comprendre, vous étiez un peu à la retraite quand même.
Oui, donc du sport, de la mosaïque, de la photo, et puis... voilà.
Il y a un moment dans votre vie où quelqu'un a été important, qui vous a, on va pas dire qui vous a fait, mais qui vous a peut-être influencé dans le cours de cette vie, peut-être pour un choix professionnel ou autre. Hein, une question compliquée, ça.
Oui, oui, c'est une question compliquée qui demande réflexion. Et
vous me renverrez un mail, je donnerai la solution de la question lambda dans quelques temps, c'est ça. L'art, c'est quelque chose qui vous passionne. La mosaïque, vous faites vous-même de la mosaïque?
Oui, oui, oui.
Vous, qu'est-ce que vous fabriquez?
Qu'est-ce que je fabrique? Des tas de petits tableaux ou de grands tableaux, des copies de, pour l'instant, je...
Qui sont vendus au profit d'Action Femmes Grand Sud?
Qui ne sont pas vendus, non. Ah, mais on fait des ventes aux enchères de temps en temps aussi.
Qu'est-ce que vous parliez de... Vous faites des vide-greniers?
Non. Non, moi je ne vends rien. Je donne ce que je fais à des amis. Et oui, on fait des ventes aux enchères. On a fait des ventes aux enchères de d'œuvres d'art. On a fait des ventes aux enchères de street art aussi, spécifiquement de street art. Tout ça, c'était avant Covid. Là, on n'a pas repris ce genre de choses après.
Quand vous dites on fait des ventes aux enchères, ce que vous vendez, ça vient d'où ?
De gens qui nous donnent, ou qui nous donnent pour le street art, c'était la moitié de la recette était pour Action Femmes.
Oui, donc c'est quand même des actions. Ça prend du temps de monter ce type de choses.
Ça prend énormément de temps.
Parce que quand on parlait du concert de gospel, vous avez fait d'autres actions de ce type. C'est quasiment un job à temps plein, ça.
Ah, ça prend beaucoup de temps, oui. Mais on est tous mobilisés pour aller coller des affiches, distribuer des flyers, aller en parler à la radio, à la télévision, dans les journaux, oui.
Si c'était à refaire, vous referiez ce type d'action?
Oui.
Vous y trouvez sur le plan personnel, vous recevez votre salaire?
Tout à fait.
Guillemets, que vous ne percevez pas.
Mais... non, mais je le reçois bien, effectivement. Et c'est plus agréable de faire ça que de monter des dossiers de demande de financement via les fédérations, vers l'État ou autre.
Et pourtant,
ça manque totalement d'intérêt.
Qu'on travaille dans la culture ou dans ce type d'activité, Esprit Occitanie pourrait vous rejoindre là-dessus, on a à peu près les mêmes problématiques. On est obligé d'en passer par là, c'est-à-dire de passer beaucoup de temps à monter des dossiers, au détriment d'ailleurs de l'action principale.
Moi, je préférerais monter des ateliers, imaginer des nouvelles formations que de remplir des dossiers, oui.
Quand vous faites des formations qui ne sont pas techniques, vous nous avez dit, mais vous avez des pros qui viennent quand même les animer?
Ah ben bien sûr, tous les ateliers qui sont faits chez nous sont faits par des pros.
Alors, nos jeunes journalistes, qu'est-ce que vous pensez? Bilan de cette heure où on a entendu Françoise Baraquin nous en parler, est-ce que c'est quelque chose que vous allez recommander à des proches, à des gens que vous connaissez? Est-ce que ça vous semble pertinent comme approche, Léna?
Moi, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir créé cette association pour ces femmes qui manquent de confiance en elles, comme vous dites, pour essayer de les remettre dans le monde du travail. Et je trouve que c'est une très bonne initiative et je recommanderais aux gens autour de chez moi.
Bon, voilà, et puis bon, vous êtes encore jeune, mais d'ici 25 ans, si l'association existe toujours, vous pourrez aller voir Françoise Baraquin qui sera toujours à la barre. Hein. Et vous?
Et moi, je pense que je n'ai rien à rajouter. Je suis d'accord en tout point avec Léna. Vraiment, honnêtement.
Donc, vous trouvez que c'est bien que ce type d'action soit mené par des individuels? Vous trouvez que c'est mieux que l'action de l'État?
Bien sûr, mais déjà, ce côté qui est que des femmes, je trouve ça très positif. Et c'est pas quelque chose que je pense...
C'est un homme qui vous le dit, donc...
Ça, c'est pas quelque chose que l'État, je pense, va pouvoir proposer. Mais ça apporte une approche différente, plus personnelle, et je pense qui marche mieux au final.
C'est ça, le suivi est plus personnalisé, c'est, on va dire, plus encadré, entre guillemets.
Le suivi est totalement personnalisé.
C'est ça. Ouais.
Et alors, pourquoi attendre 45 ans? Je reviens à la question que j'avais posée initialement, parce que finalement, il y en a beaucoup de femmes qui ont eu des enfants jeunes et qui se trouvent en recherche de travail, qui sont libérées peut-être de leur poids familial, si on peut appeler les enfants un poids familial. Mmh. Pourquoi ne pas les prendre aussi dans vos écuries, si je puis dire?
Oui, parce que à 45 ans, elles ont déjà une belle expérience du travail.
Ou pas.
Enfin, en général, elles ont une belle expérience du travail, donc on va les recruter pour ça. Et c'est pas la même chose que quelqu'un qui a 35 ans. Donc, puis il faut bien à un moment donné avoir. On aurait pu mettre 50 ans, hein, mais c'est plus vers une deuxième partie de carrière, on s'adresse plus à ces femmes-là. On pourrait s'adresser à des jeunes. Je vous ai pas parlé, je sais pas si j'ai encore le temps.
Mais oui, mais
de ce qu'on fait avec une association de jeunes femmes, on fait du mentoring inversé. C'est-à-dire que les jeunes femmes viennent servir de mentors à nos femmes. Ces jeunes femmes, elles sont nées avec des pouces là qui bougent. Là, vous le voyez pas parce qu'on est à la radio, mais le téléphone est toujours dans leurs mains. Dès qu'il y a quelque chose, pouf, elles les mettent sur les réseaux sociaux.
Un grand philosophe qui n'était pas très loin d'ici, qui s'appelle Michel Serres, hein, d'Agen, qui a écrit un livre qui s'appelle La Petite Poussette. Voilà. Okay. Donc, c'est effectivement un phénomène que l'on connaît bien maintenant.
Donc, on fait ce genre de choses et où les jeunes femmes sont chargées de d'inculquer cette culture à nos femmes, notamment en leur parlant de LinkedIn ou en leur parlant d'autres sujets comme Canva, des choses qu'elles n'ont pas abordées dans leur vie professionnelle. Et on s'est aperçu que c'était super parce que les deux en profitaient. Les jeunes femmes qui ont tout dans leur pouce, elles n'ont pas la pédagogie qui va bien. Donc elles ont appris aussi à comment je transmets ce à quoi je suis, avec quoi je suis née, et je me suis jamais posé la question. Et nos femmes en apprennent beaucoup aussi sur l'utilisation des outils numériques.
Donc, vous faites dans l'intergénérationnel.
Oui, oui. Et c'est un grand apport. Et on va faire plus parce qu'on veut faire quelque chose par rapport à l'intelligence l'IA.
Vaste problème que nous n'aborderons pas aujourd'hui. Le temps ne nous le permet plus. Françoise Baraquin, merci d'être venue au micro d'Esprit Occitanie. Longue vie Action Femmes Grand Sud. Et
merci
mesdames,
hein,
voilà, si vous avez entendu Françoise Baraquin, je pense que si vous êtes en recherche d'emploi, ça a dû vous donner envie de les contacter, surtout que vous avez vu, il y a un taux de réussite assez exceptionnel. Donc, il faut courir vite, vite vers Action Femmes Grand Sud et aller demain. Mais je ne sais pas quand cette émission passera, donc peut-être. Mais j'en ai déjà parlé. Il y a des concerts. Suivez, il y a un site. Hein. Allez sur le site d'Action Femmes Grand Sud et vous aurez toutes les explications. Il est extrêmement bien fait, très riche et je crois que sa lecture s'impose. Merci encore une fois, Françoise Baraquin, et bonne chance à Action Femmes Grand Sud. Suerte, comme on dit, de l'autre côté des Pyrénées.
Merci à vous.
C'était Cap Cap, une émission de Jack Lavergne avec à la technique Léo Touroult que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.